Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Nous sommes le lundi 30 mars, je suis un petit peu en retard, 7h31, c'est parti pour le journal.
Cédric Valax, il y avait un bug.
Cédric Valax, bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Noël Auré annonce officiellement sa candidature et celle de Lana Tetuanui au sénatorial. Une annonce qui ne va pas calmer les tensions au Tahoeira, vous l'entendrez. Nous ferons également le point sur l'actualité sociale après une semaine mouvementée à la CPS, mais aussi après le dépôt de préavis à l'OPT et à l'hôpital. D'autres pourraient suivre. Earth Hour 2015, cet événement écologique était organisé samedi. Si la mobilisation a été importante en Polynésie, la consommation électrique était plus élevé que l'an dernier. Nous parlerons également en tatouage avec les professionnels qui réclament un statut. Ils en débattront jeudi lors d'un colloque à la veille du festival Polynesia Tatao. Nous terminerons par du sport et notamment du VAA avec la première édition du défi VAA News, un défi survolé par les équipes d'OPT. A tout de suite.
Alors, Noël Auré annonce officiellement sa candidature et celle de Lana Tetuanui au sénatorial.
C'était hier soir sur le plateau de Polynésie Première. Invité du journal, le vice-président du pays a officiellement confirmé sa candidature et celle de l'élu Draiateia aux prochaines élections sénatoriales. Édouard Fritsch avait annoncé à Gaston Floss le 22 février dernier qu'il souhaitait discuter d'autres candidatures que celle de Vincent Dubois et Teura Editi aux prochaines sénatoriales pour le Tahoeira. Ces derniers jours, le président Édouard Fritsch avait annoncé lui-même son soutien aux candidatures de Noël Auré et Lana Tetuanui, mais les deux intéressés étaient restés muets. Du côté du parti orange, le leader Gaston Floss a fait passé une annonce payante dans le quotidien La Dépêche, affirmant que Teura Iliti et Vincent Dubois étaient les seuls candidats du parti. Jeudi dernier, Gaston Floss a même adressé un courrier à Noël Auré et Lana Tetuanui pour leur demander de clarifier leur position sous trois jours. Pourtant, Noël Auré a affirmé dimanche soir sur le plateau de Polynésie Première qu'il n'avait pas voulu répondre à ce courrier. Le vice-président a défendu, je cite, une cohérence de vue entre les parlementaires et le gouvernement. Il a affirmé que pour le bien de l'avancement des travaux menés par Édouard Fritsch et son équipe, on ne peut pas se permettre d'avoir deux visions des choses, on l'écoute.
Oui, effectivement, nous avons bien réfléchi avec Lana Tetuanui et nous avons décidé de présenter notre candidature lors de ces prochaines élections sénatoriales et cela avec le soutien du président de la Polynésie française, Édouard Fritsch, mais aussi du gouvernement, d'un certain nombre de représentants à l'Assemblée et surtout de plusieurs maires de l'ensemble des archipels. Il nous semble que c'est une candidature qui a toute sa légitimité. Je pense que ce qui est important dans cette affaire, c'est que l'action du gouvernement soit bien portée à Paris et qui est finalement une cohérence de vue entre les parlementaires et le gouvernement. Et c'est l'objet de cette candidature. Avec ce qui s'est passé assez récemment, et notamment lors des discussions sur le retour de l'État au financement du RSPF, où les sénateurs ont mis en cause la parole de l'État, on l'a bien vu à cette occasion, il y a eu la voix du Tahoeira et il y a eu la voix du gouvernement. Il faut que sur ces dossiers, il y ait vraiment une voix et une voix unique de l'action du gouvernement à Paris.
Interrogé sur une éventuelle exclusion du parti, Noël Auré estime que ce serait une décision regrettable. Il réaffirme que le président Fritsch suit le programme du Tahoeira et déclare, je cite, « Personne, je pense, ne veut revivre l'instabilité dans laquelle nous avons vécu pendant 10 ans ».
Et on fait le point maintenant sur l'actualité sociale après une semaine plutôt agitée.
Statu quo ce week-end après une semaine marquée effectivement par le mouvement de grève à la CPS et le dépôt des préavis à l'OPT et à l'hôpital. Du côté de la Caisse de prévoyance sociale, les discussions sont toujours rompues. C'est ce matin que le tribunal de première instance de Papeete doit examiner le référé de la direction de la CPS contre les grévistes. La direction de la Caisse leur reproche le blocage de l'entrée du siège de Papeete et estime que les grévistes empêchent leurs collègues non grévistes d'aller travailler. En revanche, les négociations doivent démarrer ce matin à 9h à l'hôpital. Par ailleurs, cette semaine pourrait être marqué par d'autres mouvements sociaux, notamment dans l'administration où des préavis de grève étaient en préparation en fin de semaine dernière.
Et on fait maintenant un petit point sur le Earth Hour de 2015.
C'est samedi soir qui était organisé la soirée Earth Hour Tahiti 2015, un événement écologique relayé dans le monde entier qui consiste à éteindre les lumières entre 20h30 et 21h30. La mobilisation a été importante en Polynésie, mais la consommation électrique était plus élevée que l'an dernier. La société de transport d'énergie électrique en Polynésie fait état de 57,17 MW. Consommé à 21h30, c'est tout de même 2,7 MW de moins qu'à 20h30. Rappelons qu'à cette occasion, 3 événements ont été organisés en Polynésie. Un concert à Vaiere sur l'île de Moréa avec le groupe Pepena, une grande bringue familiale à Tairapu au bout de la route de Tiaupo à la Presqu'île et un dernier événement musical à Maïna sur la plage de la Pointe Vénus.
Faudrait le faire tous les jours, c'était beau toutes ces bougies. Les tatoueurs de Polynésie veulent un statut.
En préambule du festival Polynesia Tatao qui débutera vendredi prochain jusqu'à dimanche au musée de Tahiti des îles, les membres de l'association des artistes tatoueurs de Polynésie organisent jeudi un colloque pour évoquer les problématiques liées à leur profession. Ce colloque ne s'adresse pas uniquement aux membres de l'association, mais aussi à l'ensemble des tatoueurs de Polynésie. Tous seront rassemblés autour du ministre de la Culture pour évoquer les différents aspects de leur métier tel qu'il est pratiqué en Polynésie. Le président de l'association, Thierry Pirato, explique qu'aujourd'hui, les tatoueurs polynésiens ne se sentent pas reconnus dans leur travail. Ils demandent un accompagnement, mais surtout la création d'un statut qui leur est propre, un moyen de soutenir la profession, mais aussi d'éviter la pratique du tatouage sauvage. Il est au micro de Tamara Sentis.
On n'a pas de texte, on a rien du tout, quoi. On est juste tatoueur, mais on n'est pas statué. C'est ça un peu la différence dans d'autres situations.
Qu'est-ce que ça apporterait d'avoir un statut?
On sait où on met les pieds, où on sait où on va. Et je pense avec ça, on est bien ciblé, on est bien cadré aussi. Je pense que c'est faisable pour l'avenir aussi, pour les tatoueurs qui viendront après. C'est une facilité aussi pour eux.
Mais là, à l'heure actuelle, n'importe qui peut se mettre à tatouer.
C'est pour ça qu'on a voulu demander à ce qu'on fasse ce statut-là, pour que d'autres tatoueurs se disent tatoueurs. En fin de compte, ils vont chez le commerçant, ils achètent des matériels de tatouage et ils se disent, je suis tatoueur, je peux le faire aussi. Donc, à partir de là, c'est mieux de les faire venir et de les faire comprendre. C'est pas en faisant ça que tu deviens automatiquement tatoueur professionnel.
Est-ce qu'il y a beaucoup de tatouages sauvages ici?
Ah, pour ça, il y en a. Parce que il y a des commerces où on vend des appareils n'importe qui. Moi, je pense qu'il faudrait surveiller ça.
L'association souhaite également mettre en place des formations à l'hygiène pour les tatoueurs en partenariat avec le ministère de la Santé.
Et Habitat Expo ne connaît pas la crise.
La 7e édition du salon Habitat Expo s'est achevée hier après 4 jours d'exposition. Tout au long du week-end, les visiteurs se sont pressés sur le Moto Ovini de Fa A pour découvrir les nouveautés en matière d'habitat, de construction, mais aussi d'immobilier et de décoration. Certains passants venaient juste par curiosité, mais la plupart étaient en recherche de solutions pour construire ou rénover leur faré de la manière la plus économique et écologique qui soit. Sur place, les exposants leur ont proposé toutes les nouveautés que l'on peut trouver sur le Finnois, des prix spécial salon. Les visiteurs ont donc fait de bonnes affaires tout en faisant le bonheur des exposants. Quelques réactions au micro de Tamara Sentis.
Super content, ça s'est très très bien passé. Une super clientèle, vraiment très très bien. Impeccable, génial. Que des clients intéressés et qui ont pris chez nous en plus. Donc voilà.
Globalement, ça s'est bien passé. On a eu un temps agréable. Beaucoup de passages, surtout sur le samedi et dimanche, avec des gens très intéressés par le thème de l'habitat, donc soit en construction, soit en rénovation. Donc forcément, pour nous qui nous occupons de l'ameublement, c'est intéressant.
Très très bien, il a fait très beau et donc c'est parfait. On a vendu beaucoup, alors on a eu beaucoup de personnes intéressées pour faire des devis et puis on a concrétisé certains devis en cette fin de salon. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues avec un budget bien précis.
Cette foire, elle est, on peut dire, super. Sincèrement, on a eu un très bon retour, on a eu beaucoup de monde et on espère satisfaire par retour de bons services, de les contacter et puis d'aboutir vraiment et concrétiser.
Habitat Expo vous donne à nouveau rendez-vous pour une 8e édition prévue en octobre prochain. Le prochain salon de Radio 1 sera celui de la fête des mères prévue du 26 au 29 mai, place Toata.
Beaucoup moins léger, un violent séisme a eu lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Un séisme de magnitude 7,5 qui s'est produit dimanche soir au large des côtes. Les sismologues craignaient de dangereuses vagues de tsunami mais ont fini par lever l'alerte au bout de quelques heures. L'Institut géologique américain a indiqué que la Terre a tremblé à une profondeur de 33 km à 55 km de la ville la plus proche, Kokopo, sur l'île de Nouvelle-Bretagne et à 787 km de la capitale Port Moresby. À Kokopo, tout le monde a eu peur, ça a beaucoup secoué dans l'hôtel et les objets sont tombés. Nous sommes tous sortis, mais finalement les dégâts sont limités, a témoigné Léonie Facal, une employée d'un village de vacances. La secousse initiale a été suivie d'une réplique de magnitude de 5,7 dans le même secteur. Rappelons qu'en 2013, un séisme de magnitude 8 avait fait 10 morts et détruit des centaines d'habitations dans l'archipel des Salomon.
Et à 7h41, on passe au sport tout de suite.
Premier sur le sport avec sportaiti.com.
Et on démarre avec du VA et l'OPT qui a survolé le défi VA News.
Une course particulièrement rude, puisque longue de 71 km, soit deux de plus que la Molokai Oe. Te Fa'ati Ora'a, le défi Va'a News a véritablement donné le ton de la saison de Va'a. 37 équipages se sont présentés sur la ligne de départ samedi matin à Pir'e. Les rameurs du Team OPT ont montré qu'ils seront vraisemblablement les hommes à suivre cette année, puisqu'ils ont réalisé un doublé dans la catégorie hommes. L'équipe A a remporté la course en 5h, 10 minutes et 30 secondes. OPT qui remporte également la catégorie vétéran et Va'a. Retour sur cette course à suspense avec Alex du magazine Va'a News, organisateur de l'événement.
Tous se sont élancés à 7h30 de la plage Taone direction Mahina, contournement de Mouliaveille, pour une descente, une longue descente de plus de 30 km sur Afreitu, une sortie de passe de Haumi direction Pointe Faa et un retour au Taone. Du début à la fin, il y a eu des combats en pagaille, surtout entre le team Shell A et OPTA, et un peu plus derrière Shell B, OPTB. À ce jeu-là, eh bien, c'est OPTA qui a su tirer son épingle du jeu. Prenons les devants juste avant la passe de Afreitu. Ils ne seront plus remontés et partiront donc vers la victoire tranquillement avec quand même une avance assez confortable. Ce qui a été exceptionnel, c'est la remontée de l'équipe B du Team OPT puisqu'il pointait quatrième à l'entrée de passe de Afreitu et au terme d'un effort impressionnant, eh bien ils sont remontés petit à petit. On grappillait d'abord l'équipe A de Shell, puis l'équipe B pour finir sur la deuxième marche du podium. Donc au final, on a sur le podium l'équipe A de OPT sur la première marche, deuxième l'équipe B de OPT et troisième l'équipe B de Shell. Derrière se suivent Shell Va'a, Shell A, EDTB et Bora Bora.
Grand absent de ce défi Va'a News, les rameurs du team A de EDT disqualifiés à la dernière minute pour des raisons administratives. Sport toujours avec nos amis de sportetti.com et un programme bien chargé avec du basketball et de la boxe. On écoute Tamatoa.
Yoranai Maiva. On débute notre actualité par du basketball. La semaine dernière, on a pu assister à une dernière rencontre de haute volée entre Aoré et Excelsior dans cette finale des playoffs qui s'est tenue dans la salle Fatawa. Après un match intense, Excelsior a arraché la victoire au score de 92 à 80. Le club réalise une fois de plus le doublé en remportant la coupe et le championnat. On continue avec le Gala de boxe qui s'est déroulé vendredi dernier dans la salle Fatawa. Cette soirée a permis de proposer quelques combats de boxe éducatives et d'autres entre les novices qui prennent du grade. En bref, quelques résultats avec les moins de 91 kg. Tamatoa Oura du Papeno Boxing Club s'incline au point face à Ronui Ayamu d'Avia Club. Chez les moins de 75 kg, Eddie Bellé du Papeno Boxing Club gagne au point sur Armand Amaru du Ufa Boxing Club. Et chez les moins de 80 kg, Arimoana Chiyé du Ufa Boxing Club s'impose au point face à Eugène Tinomoe du Papeno Boxing Club. Vous pouvez retrouver dès maintenant le reste des résultats sur notre site.
On termine sur les performances de nos Aito dans les disciplines du VTT avec de la descente DH et du Jiu-Jitsu brésilien.
Effectivement, Temari Bouillard, notre Aito du Downhill, a participé à la Kronkbox Rotorua Downhill qui s'est déroulée ce vendredi 27 mars en Nouvelle-Zélande. Inscrit dans la catégorie Pro Elite, il a pu se frotter au gratin mondial car cette compétition est une étape du circuit international qui regroupe l'élite de la discipline. Temari Bouillard, satisfait de sa participation malgré une chute, termine à la 34e place d'une course remportée par le français Loïc Bruni. Découvrez les premières impressions de Temari sur www.sportetti.com dès maintenant. Mais avant ça, on termine notre rubrique avec des résultats toujours en Nouvelle-Zélande, mais pour une compétition de Jiu-Jitsu cette fois-ci. Le Thaïsien Henry Burns, un habitué des podiums néo-zélandais, a une fois de plus décroché une médaille d'or au championnat New Zealand National Nogi 2015 qui s'est déroulé samedi dernier sur les tatamis du North Event Center Takapuna à Auckland. Voilà, c'est fini. On se retrouve demain pour plus de résultats et plus d'actualités sportives made in Finnois.
C'était Premier sur le sport avec sportaiti.com.